Europe 1.
Le 15 avril 2019, Notre-Dame de Paris était dévorée par les flammes sous le regard sidéré du monde entier. Au cœur de l'histoire accueille un podcast original qui revient sur cet événement à partir de témoignages inédits et d'archives Europe 1 exceptionnelles. Je suis Virginie Giraud. Bienvenue dans Notre-Dame de Paris, du brasier à la Renaissance, épisode 2, la Renaissance.
Une épaisse fumée noire ce soir au-dessus de la cathédrale de Notre-Dame de Paris.
D'abord parce que c'est l'actualité en direct, spectaculaire incendie à Notre-Dame de Paris.
La rapidité de propagation des flammes rend très complexe l'intervention des pompiers.
On le voit, c'est un feu de toiture vraisemblablement qui a pris certaines informations, nous disent peut-être dû aux travaux qui sont en cours. On voit des échafaudages. Donc, je vous dis, on est là sur plusieurs heures. Il ne faut pas s'attendre à une extinction immédiate. Les feux de toiture sont toujours très longs et complexes à mener.
Ces images que vous venez de décrire, la charpente arrière de Notre-Dame qui est en proie aux flammes, qui est dévastée, et cet immense panache de fumée qu'on a pu voir en arrivant ici jusqu'à Notre-Dame. Depuis l'autre bout de Paris, depuis l'ouest de Paris, la fumée est tellement épaisse qu'on a même des projections de morceaux de cendres qui tombent sur nous.
Le 15 avril 2019, Notre-Dame est touchée en plein cœur. Encerclée par les flammes, la flèche si symbolique de la cathédrale finit par céder et s'effondre dans un amas de cendres. S'en suivent le choc, l'émotion, parfois les larmes, puis dès le lendemain, une promesse. Celle du président Emmanuel Macron de rebâtir Notre-Dame en seulement 5 années. 5 ans plus tard, le pari est en passe d'être tenu. À 7 mois de la réouverture, prévue le 8 décembre 2024, Notre-Dame a accepté de nous ouvrir les portes de son chantier. De nous faire rencontrer ses compagnons, c'est comme ça qu'on les appelle, qui chaque jour restaurent minutieusement le joyau de l'île de la Cité. Bienvenue sur l'incroyable chantier de Notre-Dame.
Notre-Dame de Paris, du brasier à la Renaissance. Un podcast Europe 1.
1-2, test 1-2. Bon bah ça y est, on y est.
Deuxième épisode, la restauration.
Au pied du chantier.
Antoine Bienvaux.
Alors j'ai dû me changer entièrement, donc ils m'ont donné un casque, une combinaison, des bottes évidemment pour éviter de glisser, puis même des sous-vêtements, donc il y a tout un protocole à respecter. Je viens de me changer, j'ai laissé tous mes vêtements au vestiaire et on va pouvoir aller monter au sommet de ce chantier qui a l'air très haut vu d'ici. C'est parti, on monte sur le toit de la cathédrale de Notre-Dame. Alors l'ascenseur fait beaucoup de bruit, mais il nous emmène vraiment très haut et en face on commence à apercevoir le Panthéon, la tour Montparnasse, la tour Eiffel, tout Paris. Et on passe entre tous les échafaudages du chantier de Notre-Dame. Premier pas sur les échafaudages, on est au pied de la flèche de Notre-Dame qui est magnifique. Et on est juste à côté aussi de la statue du Christ qui a été sauvée des flammes. Et autour de nous, il y a les couvreurs. Les couvreurs, ils ont succédé aux charpentiers et ils sont en train de recouvrir cette charpente de Notre-Dame.
La charpente, très abîmée par les flammes il y a 5 ans, trône de nouveau au sommet de la cathédrale depuis janvier 2023. Pour la restaurer, les charpentiers ont écarré le bois à la main, comme au XIIIe siècle. Pourquoi ? Eh bien, laissons répondre Rémi Fromont, architecte en chef des monuments historiques.
On utilise les mêmes techniques du XIIIe siècle, simplement parce qu'on restitue une charpente du XIIIe siècle, et que ces charpentes-là, elles sont le fruit d'une logique technique qui est liée à une logique de matériaux. Et la logique technique liée au matériau bois à cette époque-là, c'est l'écarissage manuel, parce que c'est ce qui fonctionne le mieux, tout simplement, avec ce matériau bois. Et donc on a fait la même chose.
Pour symboliser la renaissance de la charpente au-dessus de l'abside, le 12 janvier 2023, le plus jeune charpentier du chantier a déposé un bouquet de mimosas au sommet de la structure. Une tradition, mais aussi un passage de témoin au recouvreur, qui couvre à présent la charpente avec des plaques de plomb. Je vous emmène les rencontrer.
On est une quarantaine de mètres de hauteur. C'est déjà impressionnant. Et alors on monte encore, donc sur de petits escaliers de chantier. Il y a plein de gens qui passent partout, qui fourmillent sur ce chantier. Il y a un dédale d'échafaudage très impressionnant. On enjambe les plaques de plomb qui sont posées sur les échafaudages, qui ont été livrées par des grues, hop, et qui attendent eh bien, d'être posées sur le toit de la cathédrale.
Bonjour.
Bonjour monsieur.
Bonjour monsieur.
Antoine Bienvaux, je suis journaliste pour Europe 1.
D'accord, alors moi c'est Quentin Athias, je suis chef de chantier à UTB.
Qu'est-ce que vous faites sur ce chantier-là en ce moment ?
Eh ben, en ce moment, on est en train d'étaler toutes les tables de plomb qui font la couverture sur le versant. en sachant que sur une bonne journée, une équipe arrive à en poser une dizaine. Et qu'il y en a plus de 460 à poser juste sur ce versant, ça prend quand même un petit peu de temps. On a une grande grue à Tours, juste à côté, qui nous dessert le chantier. Donc on fait monter les palettes une par une et au fur et à mesure de notre avancement. Parce qu'on ne peut pas se permettre de surcharger l'échafaudage. Dans ces palettes-là, il y a 4 tas de plomb à chaque fois. Donc les palettes, elles font 292 kg. C'est pile poil le poids que supporte l'échafaudage avec deux personnes à côté pour qu'on puisse travailler dessus. Et en fait, on les fait descendre tout le long du toit avec un système de treuil. Et ça fait comme, un peu comme un skateboard qui descend sur le toit, qui porte la table de plomb et nous, on va la poser directement.
Donc là, on est tout en haut du toit et vous les faites descendre, glisser pour les poser.
Exactement, c'est D'accord. Tout à fait ça. Et on les pose une par une. Et on remonte le skateboard et on vient attacher la suivante. En fait, ça nous permet de manipuler le plomb sans le porter parce que les tables, elles font quand même 52 kg l'unité. Et à porter à bout de bras 52 kg, c'est quand même très très dur.
Eh ben merci beaucoup.
Mais il n'y a pas de quoi.
On va quitter les couvreurs qui sont en train de s'affairer. On entend les marteaux, les scies derrière. Et puis si on avance un petit peu par là, je me déplace. On aperçoit donc de l'autre côté le pignon nord et cette statue de Saint-Denis qui a été restaurée, qui a rabîmé pendant l'incendie, avec un doigt qui pointe donc vers le nord et en direction de la ville de Saint-Denis, donc au nord de Paris. On a fait quelques photos pour immortaliser le moment. Et puis là, on redescend et on va aller explorer une autre partie de la cathédrale. Je vous emmène avec moi. Donc on reprend cet ascenseur pour redescendre en bas sur la base du chantier. Cet ascenseur, pour vous décrire, il est situé le long de cette immense grue jaune qu'on voit à côté de Notre-Dame depuis plusieurs mois maintenant, qui est l'une des plus grandes grues d'Europe. Au revoir, bonne journée monsieur. Donc un monsieur qui nous accompagne en ascenseur à chaque fois et que l'on fait monter et descendre depuis tout à l'heure. Retour au sol, on a changé de côté, on était côté sud, donc côté Seine, et on est maintenant à côté de la rue du Cloître de Notre-Dame, donc de l'autre côté, côté nord, et on longe les palissades de chantier, et on passe devant l'autre très grande grue de Notre-Dame. Elle est rouge, celle-ci, on avait la jaune tout à l'heure, qui est immense. La rouge, elle a une particularité, c'est qu'elle a un bras beaucoup plus maniable que la grue jaune qui, elle, n'a qu'un bras fixe et qui peut seulement se déplacer à l'horizontale. Cette grue rouge, elle peut se déplacer et poser des objets avec précision. Et c'est elle qui, par conséquent, a déposé délicatement le coq au sommet de la cathédrale de Notre-Dame, au sommet de la flèche. Sur le chantier de Notre-Dame, trois grues fonctionnent tous les jours, au nord, au sud et à l'ouest de la cathédrale. Il faut donc qu'elle soit bien coordonnée pour éviter tout risque de collision. Et ça, c'est le travail de David Bemba Matondo, responsable de la cellule d'adéquation de Notre-Dame.
Alors, cet écran que vous voyez ici, c'est l'écran de supervision qui a pour but de contrôler le mouvement des grues et qui permettent en fait que les grues ne se rendent pas en collision, qu'il n'y ait pas d'accident.
La grue jaune, par exemple, c'est en direct.
La grue jaune, c'est en direct. Et la grue aussi violette, c'est la rouge, qui est côté rue du Cloître, côté nord, et aussi en direct. Ainsi, la grue sud, la 350 tonnes qui est ici, elle est aussi en direct. En temps en heure, on peut voir ce qui se passe. Et ça nous permet à la supervision de voir les mouvements de grue et optimiser aussi le grutage qui se fait. Ça, c'est la mission cruciale qui est le système anti-collision qui se fait sous ce compteur, sous cet écran que nous avons ici. Et nous avons en même temps ce tableau que vous voyez. C'est un tableau qui permet en fait de définir un plan de levage. D'accord. Ce plan de levage est défini ensemble avec les grutiers, le chef des chantiers qui vient de chaque entreprise avant de lever, de passer dans ce bureau de la cellule d'adéquation pour faire un briefing, pour coordonner qui passe. En faisant aussi ce tableau que vous voyez là-bas avec plein de post-it, c'est l'ordre de passage par rapport aux besoins qui a été fait. La cellule d'adéquation a été créée ici à l'établissement public pour la gestion de ce chantier, pour permettre en fait de coordonner en toute sécurité D'accord. Le levage et aussi optimiser ses levages.
Et pour ça, donc, il faut réserver un créneau, c'est ça?
Oui. Et donc, les grands, ils arrivent, ils remplissent cette feuille qu'on appelle la fiche d'adéquation de besoin. D'accord. Et donc, cette cellule, chaque matin, à partir de 7h30, nous faisons le briefing qui permet, en fait, avant de lever et de faire le levage.
Donc ça, c'est le premier point. De dire à telle heure,
telle grue. À telle heure, telle grue. Et aussi, on fait aussi la météo, comme vous voyez là. On fait un point météo. À partir de 6h30, on envoie à chaque encadrant et au chef de chantier la météo qui permet en fait de sensibiliser les entreprises comment sera le temps et si on lève ou on ne lève pas.
D'accord. Voilà. Et là, sur le calendrier, est-ce que vous pouvez nous décrire, par exemple, là, aujourd'hui, qu'est-ce qui est prévu?
Aujourd'hui, nous avons, c'est ce qu'on reprend ici là sommairement, nous avons Ballas.
Par exemple, Ballas, ils ont noté, c'est quoi?
Levage des big bags qui partiraient de la barge côté Nef Sud.
Donc ça, c'est le plan, c'est ce qu'ils veulent faire?
Oh oui, tout à fait. Et c'est ce qu'ils ont fait aussi ce matin.
Il y a toute une signalisation au sol. On voit, il y a des espèces de passages piétons avec des marquages. Ben, un petit peu comme une route, en fait, pour laisser passer les engins de chantier et puis pour que personne ne se rende dedans, que tout le monde puisse circuler facilement. Alors, je vous explique la scène assez marrante. Il y a un camion qui rentre, donc un camion blanc, comme on peut en voir tous les jours. Et il y a devant plein de touristes qui sont en train de le prendre en photo. Donc rien qu'un camion blanc qui rentre dans Notre-Dame, ça attire la curiosité des touristes. Vraiment un groupe de 15-20 personnes. On a fait tout le tour de la cathédrale, donc on était côté sud, derrière la cathédrale de Notre-Dame quand on la regarde depuis le parvis. On est passé par le côté nord et là, ça y est, on est sur le parvis et on est à côté de la halle des sculptures. Alors la halle des sculptures, elle a servi pendant de longs mois pour laisser travailler les sculpteurs qui ont pu travailler tous ensemble ici pour restituer les œuvres de Notre-Dame. Et maintenant, eh bien, le travail est quasiment fini. Les derniers détails se règlent dans les ateliers. Et cette immense halle, eh bien, elle est en cours de démontage. Alors là, grand moment. On va avoir le privilège de pouvoir rentrer dans la cathédrale de Notre-Dame. On y entre à l'instant. Elle est protégée par un petit rideau. Tadam ! On y est. Alors, il y a encore beaucoup d'échafaudages. Et on vous emmène visiter l'intérieur de cette cathédrale. Donc là, on vient de rentrer dans Notre-Dame, c'est très impressionnant. Et on se situe juste en dessous de la tribune de l'orgue. Donc quand on rentre dans cette cathédrale, elle est juste au-dessus de nos têtes. On aperçoit l'orgue qui lui a été préservé des flammes, miraculeusement, grâce aux pompiers aussi qui ont eu la présence d'esprit de ne pas l'arroser. En revanche, il a pris la poussière et donc il a dû être démonté intégralement 8000 tuyaux. Qui ont dû être démontés intégralement pour être nettoyés et réinstallés à la tribune de l'orgue. Derrière l'orgue, on voit donc la rose occidentale que l'on voit sur la façade de Notre-Dame, l'une des trois roses de Notre-Dame, qui a été elle aussi dépoussiérée, restaurée et qui brille maintenant. On la voit, elle est très impressionnante avec ce bleu roi qui trône derrière l'orgue de Notre-Dame. Bonjour. Antoine, enchanté.
Moi, c'est Louis Pires, j'ai 26 ans, je suis apprenti ébéniste et je travaille ici sur le chantier de Notre-Dame.
D'accord. Alors, qu'est-ce que vous faites concrètement aujourd'hui, par exemple, ces derniers jours sur Notre-Dame?
Nous, aujourd'hui, on restaure les stalles. Donc, c'est la rangée de sièges qui se trouve devant le grand autel, avec les panneaux sculptés et l'orgue de chœur qui sont juste derrière nous. Et du coup, ça fait quelques mois maintenant qu'on restaure, parce que c'est un travail assez conséquent.
Les stalles, elles ont été sauvées des flammes ou est-ce que vous les avez entièrement restaurées?
Alors, elles ont été un petit peu impactées par... elles ont même été impactées par les flammes, parce que, en gros, la flèche, elle s'élève au niveau du cœur. Donc, les stalles, elles étaient très, très proches de l'incendie. Et d'ailleurs, quand vous voyez les photos juste après l'incendie, avec tous les débris, les morceaux cramés, etc., c'est vraiment juste à côté des stalles. Donc elles ont été exposées. Maintenant, la restauration qu'on fait, c'est pas uniquement dû à l'incendie. Les stalles, elles ont été très peu restaurées historiquement. Donc il y avait aussi des morceaux qui étaient abîmés, cassés, manquants par l'usure du temps, quoi.
Et votre travail, ça consiste en quoi justement? Quand vous dites on restaure, s'installe le bois, en quoi ça consiste? Pour expliquer à nos auditeurs, en termes pas trop techniques, si c'est possible.
Alors au début, il y a une première grande phase de nettoyage et de cuivrage de toute la zone, parce qu'il y avait des parties des stalles qui étaient vraiment noires, carbonisées, etc. Ensuite, on a récolté tous les morceaux qu'on a pu retrouver. Et du coup, le gros du boulot, ça a été de remplacer ou de recoller chaque morceau qui était cassé, abîmé, manquant, etc. Soit par des greffes de nouveaux bois neufs qu'on vient coller sur les panneaux initiaux. Et ensuite, on a un vernisseur et un sculpteur qui viennent redonner la forme initiale aux morceaux qu'on restaure. Mais nous, notre but final, c'est que les stalles ressemblent qu'elles se rapprochent le plus possible de l'état d'antan.
Et travailler sur le chantier de Notre-Dame, qu'est-ce que ça vous fait? C'est quand même un des plus beaux chantiers, le plus grand chantier peut-être du 21e siècle.
Alors déjà, c'est un chantier qui est unique, qui ressemblera forcément jamais à aucun autre, puisqu'on est à Notre-Dame. Mais au-delà de ça, je pense que dernièrement, là, on commence à se rendre compte que ce chantier, il compte aussi pour les Parisiens, les Français.
Les gens qui sont tout autour, peut-être aussi.
Aussi, ouais, les passants, les touristes, que dès qu'on sort, y a un amas de monde, même sur le parvis, on le voit tous les jours. Et du coup, on sent qu'en fait, on participe à quelque chose d'assez historique et d'assez unique. Et ça, pour le coup, c'est une dimension que j'ai commencé à réaliser que assez récemment.
D'accord. Eh bien, merci beaucoup.
C'est moi.
Louise.
Merci beaucoup.
On vous laisse retourner travailler.
Bonne visite, profitez.
Merci beaucoup. Donc, on est sur le bras sud de Notre-Dame à présent et on a ces vitraux qui sont magnifiques et qui ont été nettoyés à la perfection, qui laissent maintenant passer le jour. Avec aussi toutes ces sculptures, ces éléments sur les murs qui ont été blondis, nettoyés et qui donnent l'impression qu'en fait rien ne s'est passé dans Notre-Dame. C'est assez incroyable. On va aller voir Olivia Salin, restauratrice de pierre. Bonjour Olivia.
Bonjour.
Est-ce que je peux vous demander, comme je demande à tout le monde, votre rôle ici à Notre-Dame?
Alors actuellement, nous restaurons tous les marbres du cœur de la cathédrale.
D'accord. Donc c'est ce que vous êtes en train de faire là. Vous pouvez me décrire un petit peu ce que vous faites en ce moment?
Donc actuellement, je suis sur une phase de nettoyage de tous les marbres du cœur. Donc on voit ici qu'on a désentoilé toutes les zones qu'il avait été pour protéger le cœur pendant la première phase de travaux. Donc actuellement, nous faisons un nettoyage complet de tous les éléments. On est vraiment sur la partie la plus ouvragée dans l'ensemble du cœur.
Qui est juste devant l'autel, donc.
Voilà, c'est ça. On est au pied du maître-autel, dans les parties les plus ouvragées.
D'accord. Et donc là, combien de temps de travail pour nettoyer ici?
Alors, on a commencé sur site, on a commencé en février à désentoiler. Donc il y a toute une phase de découverte presque après une longue phase de préservation et une phase de nettoyage progressif, en fait, par petites zones.
D'accord. Donc tout votre travail s'est fait ici sur site à Notre-Dame, c'est ça?
Oui, alors il y a eu toute une phase aussi de cartographie de toutes les altérations. Et aussi d'identification des marbres. Et aujourd'hui, nous sommes à une phase de nettoyage.
D'accord. Et vous êtes combien?
Qui va continuer d'ailleurs?
Qui va continuer? Qui va... Donc là, vous êtes ici, puis vous allez peut-être...
Là, on est au pied du maître... Aujourd'hui, nous sommes au pied du maître-autel et nous allons ensuite continuer notre phase de restauration dans l'ensemble du cœur. Enfin, oui, parce que là, aujourd'hui, je suis toute seule, mais normalement, on est deux, voire trois.
Bon, bah, je vais vous laisser retourner à votre travail, parce qu'on vous a un peu dérangé. Merci beaucoup, Olivia.
Merci beaucoup.
Quand on rentre, c'est la blondeur des pierres, puisque avant même l'incendie, les pierres étaient abîmées par des années de poussière, de moisissure, elles étaient devenues assez sombres. On m'a même montré une photo d'un monument de Notre-Dame, d'une sorte d'avant-après, et c'est vraiment frappant de voir la différence entre la poussière qu'il y avait avant sur le mobilier de Notre-Dame et la blondeur de ces pierres qui ont été restaurées. Ce qui rend la cathédrale plus lumineuse, on a l'impression, c'est la première impression quand on rentre, que ce qu'elle n'était avant. On vient vient de ressortir du chœur. On va maintenant vous emmener dans la chapelle Notre-Dame des Sept Douleurs. Je vous y emmène. Et bonjour.
Bonjour.
Est-ce que je peux prendre votre nom, s'il vous plaît?
Oui, je m'appelle Marie Parent.
D'accord. Alors, expliquez-moi votre rôle ici à Notre-Dame.
Alors, je suis restauratrice de peinture murale et je suis responsable d'un groupement de 15 restauratrices de peinture murale. Alors, nous sommes dans la chapelle axiale. La chapelle qui est dans l'axe de la cathédrale, et nous sommes dans la chapelle des Notre-Dame des Sept Douleurs, hein. Donc qui est une chapelle triple. Vous voyez, vous avez trois baies de vitraux là. Donc, vous imaginez une chapelle triple avec un chœur, un autel au-dessus décoré par Joël-le-Duc. Vous voyez, en partie basse, il y a un jeu de rose, de couleur rose, avec un fond vert un peu pastel. Et ensuite, vous avez une sculpture qui a été peinte couleur pierre avec un fond doré. Donc, c'est une des chapelles les plus précieuses parce que c'est la chapelle axiale. Donc, c'est des décors qui ont été dessinés. La gamme de couleurs a été dessinée et décidée par Viollet-le-Duc. Donc, vous avez trois de mes collègues là qui sont en train de faire des retouches de couleurs. Donc, elles ont une palette avec des gammes de couleurs.
Donc, c'est au pinceau, c'est ça?
Alors là, c'est la phase finale. Donc, l'enduit a été consolidé, la peinture a été refixée, la couche picturale a été nettoyée. On a mis des enduits là où il y avait des lacunes. Et maintenant, c'est la partie la plus gratifiante parce que tous les petits points blancs, on met une petite couleur dessus et on obtient l'aspect définitif de la restauration.
C'est très minutieux, j'ai l'impression de travailler avec des tout petits pinceaux.
Tout à fait. Là, par exemple, vous avez ce qu'on appelle une piscine et vous avez un fond rouge avec quelques points blancs et nous ne retouchons que les petits points blancs. C'est-à-dire qu'on ne touche pas l'original, on ne touche vraiment que là où il y a des lacunes. D'accord. Donc effectivement, quand vous voyez un espace si grand et autant de mètres carrés, alors effectivement, le restaure avec des petits pinceaux, c'est pour ça que c'est un peu long. Comme on a beaucoup de chapelles et qu'il y a beaucoup de surface, et puis on est un peu dépendant des échafaudages, un peu de la coactivité. Donc effectivement, on va rester, je crois, jusqu'à... On a toujours des petites choses à faire, voilà.
D'accord.
Pour nous, restaurateurs, c'est un chantier unique parce qu'on restaure tout en même temps. Les vitraux, les peintures murales, les sculptures, les parements. Et ça, c'est extraordinaire. Ça n'arrive jamais parce qu'on fait tranche par tranche. Donc là, on restaure la totalité. Donc pour nous, restauratrice, c'est vraiment exceptionnel. Voilà. Et puis, effectivement, c'est un peu le chantier du siècle parce que c'est un peu comme le temps des constructions des cathédrales. On est tous les corps de métier ensemble, on travaille tous ensemble. Il y a une belle énergie parce qu'on veut tous arriver à un résultat satisfaisant avec un temps un peu imparti. Donc voilà, c'est le mélange de tout ça.
On a la chance d'avoir le soleil aujourd'hui qui traverse actuellement les vitraux de cette chapelle de Notre-Dame. Et on voit cette lumière se refléter justement sur les murs. Signe que ces vitraux ont été parfaitement restaurés, qu'ils laissent à nouveau passer la lumière du jour. Merci beaucoup Marie, au revoir. On rentre dans une autre chapelle, la chapelle Saint-Marcel. Alors comme tout à l'heure, il faut passer une bâche, puisque ces chapelles sont protégées par de grandes bâches. Et on va donc rencontrer une restauratrice de sculptures. Je vous emmène.
Alors, Nathalie Pruat, je suis restauratrice de sculptures. Et donc j'ai été chargée par l'établissement public de restaurer un ensemble de sculptures qui se situe un peu partout dans la cathédrale. Récemment, je viens de terminer le chœur, donc le vœu de Louis XIII, donc qui comprend la Pietà, Louis XIII, Louis XIV et les anges de la Passion.
Comment on restaure le vœu de Louis XIII? Comment vous y êtes pris techniquement? Racontez-nous.
Alors, le vœu de Louis XIII, donc en fait, je l'avais déjà restauré 4 mois avant l'incendie. Donc en fait, il était déjà, on va dire, nettoyé. Par contre, il avait beaucoup repris beaucoup de poussière, donc dû à l'incendie, et en plus une énorme coulure de plomb donc qui était tombée et qui avait rejailli en fait sur le dessous des membres du Christ, de la Vierge, voilà. Sur le manteau, un peu partout. En fait, on a appliqué le même protocole, donc un dépoussiérage, déplombage, ensuite un nettoyage, donc assez léger selon le cas, on va dire, à la vapeur d'eau, et puis pour enlever certaines taches ou autres, on a utilisé des solvants seuls ou en mélange. Une fois le nettoyage terminé, avant mise en cire, donc sur tous les monuments en marbre ou en pierre, dépourvus de polychromie et de dorure, des tests lingettes sont effectués afin de savoir si le taux de plomb est acceptable ou pas.
D'accord.
Donc là, je suis en attente pour celui-ci, pour ce monument-là, des résultats.
C'est quoi comme
C'est Monseigneur de Quélen.
D'accord.
Voilà. Et donc j'attends les résultats pour le mettre en cire. Donc un peu partout, au fur et à mesure des résultats, je mets en cire derrière. Donc d'accord. En cire pour, de protection.
Donc en fait, vous finissez votre travail, vous demandez l'autorisation à ce qu'un test de plomb soit fait, c'est ça ?
Voilà, totalement. Pour qu'on puisse réouvrir au public en pleine sécurité.
Et une fois que le test est valide, vous pouvez mettre la
cire. Voilà, totalement.
D'accord. J'ai compris. Merci beaucoup, Nathalie. On vous laisse travailler, pardon. Et on repasse sous la bâche pour sortir de la chapelle Saint-Marcel et revenir encore une fois dans le cœur de Notre-Dame où va s'achever notre visite. Donc on va quitter la cathédrale à présent. On refait une dernière fois le tour du cœur qui est bâché entièrement pour protéger ce mobilier des travaux puisqu'il y a encore pas mal d'échafaudages, même s'il y en a évidemment moins qu'au début de la restauration. Il y a encore du travail à faire et il sera fait avant le 8 décembre pour la réouverture. On retrouve la lumière, on ressort du chantier par le côté sud de la cathédrale, côté Seine, et on revient au point de départ, donc à côté de cet ascenseur qu'on a emprunté tout au début, de cette immense grue jaune, et on arrive à la sortie du chantier. Alors là, il va bien falloir que je respecte le protocole. Donc je vais enlever ma combinaison, mes bottes, tout l'équipement qui m'a été donné par l'organisation de Notre-Dame pour faire cette visite en toute sécurité, sans oublier le plus important, la douche obligatoire pour tous les compagnons qui ressortent du chantier. C'est le processus, il faut absolument prendre une douche avant de remettre ses habits civils. Donc je vais m'y plier.
Notre-Dame de Paris, du brasier à la Renaissance, est un podcast Europe 1. Cet épisode a été écrit par Antoine Bienvaux. Réalisation, Christophe Davio. Merci aux archives d'Europe 1, Laetitia Casanova, Antoine Reclus et Sylvaine Denis.